Le convoi de l'eau de Bordeaux à Mel contre les méga-bassines. Reportage sur la journée du 16 juillet pour la Clé des Ondes et Méga Radio. Salut à tous. On est arrivé chez Johanna et Thomas, des pépiniéristes responsables et soucieux de leur environnement. Aujourd'hui, on a roulé 55 km à travers les campagnes. On va revenir sur Eric, qui avait un truc à nous dire. Et on écoutera aussi Thomas, qui nous présentera sa pépinière, les herbes folles. Il y a Paprika, qui nous rappelle comment on était arrivé là, comment on a organisé ce fabuleux convoi de l'eau. Et puis Pascal va nous témoigner des pressions de la coordination rurale. Enfin, Johanna nous rappelle comment la Confédération paysanne subit des baisses de financement parce que l'État a décrété qu'il ne respectait pas les valeurs républicaines. Avant de commencer ce reportage, on doit vous rappeler que dans la soirée du 16 juillet, alors que nous étions en train de nous coucher, notre convoi a été attaqué par un commando pro-bassine. Deux membres ont été blessés, ils nous ont volé deux vélos et des tentes. Notre convoi a été lourdement atteint, mais il n'a pas perdu sa détermination. Et nous sommes bien arrivés au village d'Olo, à Mel. Allez, on continue. Et c'est le dernier reportage du convoi de l'eau Bordeaux-Mel.
Eric, t'as un truc à dire ?
Ouais, j'ai un truc à dire. C'est que, voilà, au-delà de l'aspect... Le fait que ça nous dérange tous, qu'il y ait cette surveillance policière et qu'on se sente contrôlé en permanence, il y a cet aspect aussi de dépenses inutiles. C'est-à-dire que c'est de l'argent public de payer tant de fonctionnaires pour contrôler, pour suivre en permanence 24 sur 24 des gens qui n'ont rien à se reprocher et qui ne font rien de mal. Et en fait, tout cet argent, c'est nos impôts, c'est notre argent à nous, c'est l'argent public. Et que ça soit aussi stupidement dépensé, ça me dérange. Moi, je trouve que c'est du gaspillage.
Sky,
tu peux rappeler le projet de départ et ce que vous produisez ?
Le projet de départ, on est donc la pépinière Les Herbes Folles, c'est Johanna, la discrète là-bas, et moi. On est producteur de plantes aromatiques médicinales, plantes vivaces. On ne fait que des plantes qui se mangent. Et donc des plantes dans des serres en godet et des arbres. Et les arbres, on fait ça en racines nues, on fait ça ici. On fait ça sur ce terrain-là où le sol est vraiment très bon. Ça fait 8 ans qu'on a créé la pépinière. Ça fait 4 ans qu'on est à plein temps tous les deux et qu'on vit de ça et qu'on vit très bien et qu'on est très heureux et que ça marche. Et qu'on est en agriculture biologique, évidemment. Et voilà. Et que dire d'autre ? Le but, c'est pas la quantité. Le but, c'est la diversité. Le but, c'est se faire plaisir. Le but, c'est de diffuser un maximum de variétés différentes, résilientes. Donc, on a fait pas mal le tour des conservatoires, des choses pour avoir des... Pas forcément des vieilles variétés, même si, en fait, 90% elles sont vieilles. Mais on se ferme pas à ça. On veut vraiment que de la variété résiliente, solide, qui tient chez nous, qui réside dans nos sols. Et on vend uniquement en local. On n'expédie pas, nous, par la poste. On vend tout à une heure autour de chez nous. Parce qu'on croit à 1 million de petits paysans en France, donc chacun bosse dans son coin. Et du coup, nous, on fait des arbres qui sont résistants au sol argilo-calcaire et des plantes aussi. Et les sols argilo-calcaires, c'est très particulier de chez nous. Il n'y en a pas partout. Et du coup, chacun fait ses plantes résistantes à ses sols. Et tout ira très bien. Et Gamber ira très mal. On va avancer un peu ? Attention, un charbon. C'est pas grave. Du coup, là, il y a un rang de tomates, un rang de choux, poivrons, aubergines, un rang de patates. Donc on me disait que c'est pas une pépinière, que c'est un potager. En fait, ça rentre dans la rotation pour pas faire arbre sur arbre sur arbre sur arbre. On a 3 lots. Vous avez un lot devant vous, là. Un lot, ça fait 1000 arbres. Il y a 200 mètres linéaires de planches. Vous avez un deuxième lot là-bas, un troisième là-bas. Donc l'idée, c'est qu'on tourne chaque année. Et là, on est sur le lot qu'on a vendu l'année dernière. Donc théoriquement, il n'y a pas d'arbres. Comme en pratique, on n'est pas très organisé. En réalité, il en reste toujours. Mais il y en a moins quand même que dans les autres. Et du coup, on profite des planches qui sont amendées, qui sont désherbées, pour faire nos légumes. Comme ça, on a une certaine résilience. Il y a 6-8 mois de l'année, on n'achète pas de légumes. Ça paraît pas comme ça, mais on fait plein aussi d'allium, d'oignons, échalotes. On fait pas mal de patates en tomates. Enfin, tout ça, ça marche bien. Et puis ça nous motive à s'occuper des planches où il n'y a pas d'arbres, en fait. Donc ça rentre dans la rotation de faire des patates douces, il y a devant, là, des choses comme ça. Mais ça, on n'en vend pas. C'est uniquement pour nous, les légumes. C'est pour la rotation. Et après, on va avancer du coup dans les autres lots, on va voir plutôt les arbres.
Mais ils ont l'air vachement serrés quand même, les arbres-là.
Ouais, c'est le principe un peu de la pépinière. Du coup, on joue sur ce côté-là.
Ah mais oui, vous les vendez, les arbres.
Tous ces arbres, on les vend. Ouais. Oui, ils vont pas rester en place. Hein.
Ouais.
Là, on est sur le lot 2.
Et c'est quoi comme arbre, là, qu'on voit?
Alors là, c'est des poiriers. Nous, toujours pareil, l'idée, c'est de faire la diversité à fond. Du coup, on fait tout ce qu'on arrive à faire, on le fait. Donc là, il y a des poiriers, des pêchers, des abricotiers, des pruniers, des cerisiers, des amandiers, des pommiers. On fait tout ce qu'on peut faire, on le fait. On a essayé les kakis, on n'y arrive pas, donc on a arrêté. Mais on fait le maximum de diversité, toujours le maximum de diversité. Et on me faisait la remarque là que c'est proche, les arbres, entre eux. Et en fait, ils sont à 20 cm, les arbres, les uns des autres. À 1m20 ou 1m50, ça dépend entre les rangs. Et cette distance-là, évidemment, ils n'ont aucun avenir de devenir gros. Mais en pépinière, ça leur permet, c'est de la syntropie, ça leur permet de... Ils se donnent tous de l'élan et ils font la course, en fait. C'est-à-dire que c'est suffisamment serré pour pousser bien, et tout le monde ensemble, mais pas trop pour rentrer en concurrence non plus. Donc tout ça, c'est pas nous qui l'avons... Donc c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, ces trucs-là, mais du coup ça marche très bien. On est parti sur 20 cm entre les arbres. Donc ils pourraient pas rester plus que 2 ans, ça serait beaucoup trop serré. Mais par contre, ça fait des arbres qui partent droit, déjà, on n'a pas besoin de trop les mener. Et puis qui poussent tous ensemble, et puis ça optimise la place à fond. Et entre les arbres, du coup, c'est paillé sur 60 cm de large, que en paillage organique. De la paille locale qu'on achète, pas bio, parce que la paille bio, on la laisse aux éleveurs bio, il n'y en a pas assez pour les éleveurs bio. Donc on laisse la paille bio aux éleveurs bio, et on achète de la paille de l'année d'avant. Ça les arrange, ils mettent souvent leur paille sur les paillers. Elle est noire, ils ne savent pas quoi en faire, les agriculteurs. Là, c'est un gars qui est pas très énervé, qui est sympa comme tout. Ils nous la gardent, et tous les ans, ils nous livrent la paille noire, là, la paille qu'eux, ils veulent pas, et nous, ça nous arrange, parce qu'elle commence à travailler. Et après, on a 60 cm d'herbe qu'on a laissé, de l'herbe qu'on tond. Donc c'est le sol naturel, ça permet de protéger le sol, ça permet de gérer l'hydrométrie sans problème. Et puis on n'a rien à faire, on a juste à passer la tondeuse de temps en temps. Là, le hasard de l'année fait que ça pousse, on était à la bourre, donc j'ai tout tondu. Mais sinon, on tond normalement un rang sur deux, tous les 15 jours à peu près. Donc il y a tout le temps un peu le bazar. Là, cette année, ça pousse beaucoup. Cette année, on s'est fait dépasser par les chardons, donc il a fallu remettre un coup de propre.
Il y a des maladies?
Alors, il y a toutes les maladies du monde. Il y a la draft qui est passée, il y a tous les insectes ravageurs du monde, mais il n'y a rien qui domine, en fait. Il y a juste un, comme ça, de temps en temps, à droite, à gauche. On a eu un contrôle sanitaire, là, du coup, des arbres. Et elle a dit, j'avais jamais vu tous les insectes ravageurs de ma vie, mais en fait, il y en a très peu. Parce que c'est un équilibre, parce qu'il y a maximum 10 individus d'une seule variété. Donc ça peut pas, en fait, ils peuvent pas s'étendre. Si vous voyez, c'est les rangs, souvent, les rangs sont monospécifiques. Et encore, c'est même pas tous les rangs. Bon, on voit ce rang-là, celle-là, c'est des abricotiers, au début, c'est des pruniers. C'est rare déjà qu'il y ait plus que 100 arbres de la même espèce, et c'est jamais plus que 10 de la même variété. Donc même quand il y a des maladies, c'est pas de la monoculture, donc ça peut pas s'en aller très vite. Et en fait, c'est des arbres qui sont très résilients. Et puis au contraire, ils grandissent avec la maladie. Et ça fait du coup le cinquième hiver cet hiver là qu'on va vendre des arbres, et on a des super bons retours. Parce que les arbres, ils connaissent la vie, quoi. C'est des vrais.
Quand ils arrivent chez toi, ils ont quelle taille ou comment ça se passe? Et au bout de combien de temps tu les vends?
Alors du coup, il y a deux types d'arbres. Il y a les arbres de semis. Ça, c'est notre préféré, les brugnons de vigne, les pêchers de vigne, les cormiers, plein d'arbres comme ça, qu'on prend la graine locale, le plus local possible, et on la sème, et ça, on s'en occupe depuis le début, et on les vend généralement à 1 ou 2 ans, ceux-là. Et ensuite, il y a les arbres greffés. Alors là, notre rêve, ça serait de prendre une graine, semer le porte-greffe, couper, prendre un greffon, greffer et vendre l'arbre. Ça, c'est l'objectif à terme, mais c'est deux métiers dans l'un, parce qu'il faut quand même produire les graines du porte-greffe, et il faut prévoir ça en année N-2. Là. Donc, pour l'instant, on achète les porte-greffes. Donc, c'est des jeunes arbres qui font 20-30 cm de haut, là, qui sont un diamètre, ils font 7 mm de diamètre. On les plante en hiver, on les greffe et on les vend. Ils ont entre 9 et 18 mois. Et entre 9 et 22 mois, comme ça. Ça dépend à 1 ou 2 ans, quoi. Un an de greffe ou 2 ans de greffe. Là devant, on a des... Et après, il y a 2 types de greffes. Parce qu'on greffe... Là, ça va commencer de technique, je vais vous perdre.
Mais non.
On greffe en mars à l'anglaise. Donc ça, c'est des greffes comme on a juste devant, là. Ça vous fait un... On voit bien le porte-greffe et un biseau et le greffon qui pousse. On voit bien, là. Et derrière, on voit bien sur les, enfin moi je vois bien sur les abricotiers, c'est des greffes à l'écusson. Donc si la greffe à l'anglaise, elle rate au printemps, on peut au mois d'août, ça va, enfin maintenant là, on va faire les premières dans pas longtemps. On peut greffer à l'écusson, c'est-à-dire qu'on prend juste un œil et on vient le greffer dessus. Ça se fait à cette époque-là et ça nous permet de faire une deuxième chance sur les mêmes porte-greffes. Et là, les abricotiers qui sont là, ils sont greffés à l'écusson. On voit que ça fait pas tout à fait la même tête que le greffon qui est là. Et on peut encore regreffer à l'anglaise en mars d'après. Donc généralement, avec nos trois chances, on finit par réussir à greffer tout. Sachant que pommier, poirier, prunier, on est à 98% de réussite. Hein. C'est vraiment, après, il y a des trucs plus techniques. Quoi. Les abricotiers, c'est plus chiant. Les pêchers, ça dépend des variétés, c'est un peu plus technique. Les cerisiers, ça dépend des gelées tardives. Mais voilà.
Comment vous les vendez ?
On les vend en racines nues quand ils font au moins 1,20 m de haut.
En direct ?
En direct, tout en direct, et que des gens qui habitent à moins d'une heure de la pépinière. Et ils sont tous réservés, c'est une petite production. L'objectif, du coup, avec nos lots de 1000 arbres, c'est de vendre 1000 arbres. On n'y est jamais venu encore, on est à 850 arbres. Pour l'instant, le revenu principal, c'est la pépinière de peau. C'est pas encore les arbres, parce que c'est long à mettre en place, tout ça. Mais c'est en train de se construire doucement. Et jusqu'à maintenant, on sort le catalogue en septembre-octobre, et en 3 semaines, ils sont tous réservés. Donc on vend tout sur réservation et après on demande aux gens quand c'est que vous voulez planter et nous on arrache 24 heures avant, on les sort de la terre et on les donne en racines nues. Donc les gens les replantent.
Et vous vendez plus du coup à des particuliers, pas d'agriculteurs qui veulent faire de l'agroforesterie ou...
Alors on est fermé à rien du tout, on vend à des particuliers à la base et l'année dernière le hasard fait qu'il y a 2 agriculteurs qui ont planté en agroforesterie. Ouais, on a vendu à Charles la bière la 17 là qui est vers Versante, vers Écura. Et il a planté 10 hectares d'agroforesterie, pas que nos arbres, mais il y avait quand même 185 arbres greffés de nous. On a fait ça en chantier participatif et c'est plutôt chouette. Et en plus, nous, ça nous fait presque un nouveau verger conservatoire où on sait où c'est, parce qu'il est bio, Charles, et du coup, on connaît que ces arbres là-bas, on pourra aller chercher les greffons. Mais c'est pas le même avec 1000 arbres, au final, l'agroforesterie, ça nous mangerait trop d'arbres. S'il y a un agriculteur qui veut, avec plaisir, mais on préfère diffuser. Bah, ça sera pas, toi, ça peut pas s'agrandir, hein, de toute façon. Donc, après, s'il y a un agriculteur qui en veut 150, bah, faut qu'il se dépêche à les commander, c'est tout. Mais on en fera un ou deux par an avec plaisir, mais pas plus, quoi. L'objectif, c'est de diffuser de la biodiversité, diffuser de la résilience, diffuser du fruit, et puis que les gens prennent conscience de la diversité fruitière. C'est un truc qui nous tient à cœur, ça aussi. C'est que plein de gens nous répondent, ah, un pommier, j'en ai déjà. Mais oui, mais les pommiers, ça donne sur 8 mois de l'année. Les pommiers, il y en a des acides, il y en a des mous, il y en a des durs, il y en a des croquants, il y en a 1 milliard. Personne a tout déjà. Et nous non plus d'ailleurs. Aujourd'hui, nous, on a 200 arbres, parce qu'autour de la pépinière, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y en a qui sont un peu plus grands que les autres. Ça fait partie de nos pieds-mères. Ça se voit que c'est une jeune pépinière, parce qu'on n'a pas encore de gros arbres. Mais des arbres comme ça, on en a 200 en place, qu'on a greffé nous, de 150 variétés différentes. On n'a pas que ici, hein, il y a d'autres terrains. Et on a aussi des noisetiers, on a des amandiers, on a 15 variétés d'amandiers, on a des choses comme ça. Donc voilà, on travaille à faire pousser ces arbres, à devenir un peu verger conservatoire et à diffuser cette diversité qui tient la route et faire redécouvrir le goût du fruit aux gens, quoi. Et puis la conservation et puis adieu la Pink Lady.
Et le traitement ?
Et alors, traitement, zéro traitement. Sur les plantes en pot, on met du purin d'ail pour les mouches du terreau parce que c'est pas beau, parce que ça fait des asticots uniquement pour ça. Pour les plantes, ça change rien. Et ici, dans la pépinière d'arbres, ça fait 5 ans qu'il y a des arbres, il n'y a jamais eu le moindre traitement, même pas savon noir, rien. On n'a jamais rien mis sur aucun arbre. Et on a eu une formation au mois de mars, c'était pas nous le formateur, c'était un arboriculteur, là, Benoît Piron, un très bon, un grand spécialiste. Et l'après-midi, c'était visite de la pépinière. Et puis, du coup, il nous parlait des carences en bord, des machins, des trucs, des contrôles de... Et il dit, bah oui, bah du coup, qu'est-ce que c'est que tu mets du coup pour contrôler les ravageurs et machin ? Je lui dis, bah rien. Bon, bah voilà, il y croyait moyen, mais pourtant. En fait, c'est tellement petite échelle, puis vous voyez bien, c'est très diversifié. Ça va, un insecte, il s'y perd très vite, et on n'a jamais rien mis. Et on mettra jamais rien. On a déjà perdu 3 pommiers à la suite à cause des pucerons, mais c'est pas grave, on perd 3 pommiers à la suite, et puis bah, c'est la sélection, quoi. Et on n'a pas perdu toute la variété, on a perdu 3 individus. Donc ceux-là, non. Mais voilà, c'est comme ça que ça se fera, quoi.
Vous les laissez quand ils sont attaqués ?
Non, on les enlève quand même. S'ils sont un peu attaqués, on les laisse. Parce que souvent, en plus, les ravageurs, ils s'occupent fort de lui et puis ils laissent tranquille les autres. Et s'ils commencent à être vraiment très malades et qu'ils risquent d'être vecteurs de maladie, après, ça peut être le vecteur, là, on l'enlève. Mais je le brûle jamais, par contre. Tout le monde dit il faut brûler les arbres. Machin. Je le prends, je le coupe, je le mets de l'autre côté. Vous avez vu au milieu de vos tentes, là, il y a un gros tas de branches.
Non, on dort à côté.
Vous dormez à côté des arbres malades. Non, il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qu'on taille, on met là-bas, mais on le taille pas. Du coup, on le brûle pas, on le garde. La matière. Nous, on croit vraiment à la diversité, à la nature hors du vide. Donc, si on essaie de créer le vide, on va le remplacer. La nature va le remplacer par autre chose. Si on laisse tout plein. Il n'y a aucun problème, on ne sera jamais embêté. Si on avait un champ de monoculture de maïs, oui, on serait embêté, en effet.
Forcément. Pas de grâce pour le géotextile, dès que tu aurais guisé contre le projet servile. Je me souviens encore de ma première bassine. Elle était amosée, peuplée par les machines. Un palais de pelleteuses pour dévaster nos terres, détruire l'écosystème et nous rendre vénères. Mort aux bâches, mort aux bassines, vivent les enfants de Mosée et ceux de Sainte-Soline. Pas de grâce pour le géotextile, dès que t'es réguisé contre leur projet servile. J'étais un crabe charme, en destin des âmes, un crabe à ma porte, forme d'un cutter. On taillade à la bâche d'un ouvrage illégal, sous les yeux des gendarmes qui pouvaient que dalle. Et mort aux bâches, mort aux bassines, vive les enfants de Mosée et ceux de Sainte-Soline. Pas de grâce pour le géotextile, des cultures aiguisées contre leur projet.
Paprika, comment on en est arrivé là?
Eh bien écoute, ça a commencé donc fin mai. Au début, c'est un petit groupe de gens qui se connaissaient par des collectifs, etc., qui se sont rassemblés, qui ont répondu en fait à l'appel des soulèvements de la terre et qui ont appelé à faire ces convois, vélo, à pied, en voiture pour ceux qui viennent de très loin, pour aller au village de l'eau. Et donc on commençait à organiser ça, qui ont diffusé sur les réseaux sociaux. Il y a eu une première réunion, puis une deuxième avec un peu plus de monde.
Attends, tu vas un peu trop vite là. Quand tu dis on fait une première réunion, c'est quoi les relations entre vous? Comment vous arrivez à trouver cette énergie? Comment vous vous mettez d'accord? Est-ce que vous vous connaissiez?
Alors, moi je suis arrivé à la deuxième réunion, j'étais pas là dès la première. Est-ce qu'on se connaissait? Non. Tout le monde ne connaissait pas tout le monde. Alors, il y a des gens qui se connaissaient par des groupes militants, des collectifs. Mais il y a des gens, moi par exemple, tu vois, je suis arrivé comme ça de nulle part, j'ai juste vu passer l'information et je me suis dit, bah, c'est une super idée, j'ai envie d'aller au village de l'eau, il y a ce convoi qui se fait, enfin, je trouve que c'est une super forme de mobilisation. Donc non, tout le monde ne connaît pas tout le monde et en fait, quand tu rentres dans la réunion, bah, tu écoutes un peu les récaps de ce qui s'est passé les fois d'avant, qu'est-ce qui a été décidé et puis, bah, petit à petit, tu t'investis, tu te dis, ah bah, sur tel point, moi j'ai telle idée qui peut être sympa. Et en fait, petit à petit, les tâches se spécialisent. Chacun prend un truc. Il y en a qui vont s'occuper plus de la logistique, tout ce qui est alimentation. D'autres qui s'occupent plus du parcours. D'autres qui vont s'occuper, je sais pas moi, de créer un formulaire d'inscription, etc. Et donc, ça finit par faire un petit groupe au bout de 3-4 réunions qui revient toutes les semaines.
Alors là, on est à Bordeaux. On est avec des militants de Bordeaux. Et c'est quelle période? C'était quel mois?
Alors les premières réunions, ça devait être début mi-mai et ça s'est surtout accentué entre la fin mai et sur juin. Voilà, en juin, on a eu une réunion toutes les semaines, il me semble. On a eu un repérage aussi qui a été fait un week-end, un repérage de toutes tous les endroits qui allaient nous accueillir, toutes les personnes qui nous accueillaient, qu'on a été rencontrés. C'est important aussi pour nous de les rencontrer de visu avant de débarquer chez elles. Et donc voilà, une réunion toutes les semaines avec chaque semaine on avance, on a eu des nouvelles personnes qui arrivaient à chaque fois, mais on avait un petit noyau dur qui revenait, qui était là tout le temps et qui avait ses petites tâches, et on arrive à ça aujourd'hui, quoi.
Alors ça c'est extraordinaire, mais est-ce qu'à un moment donné toi t'as eu des craintes? Il y a eu des moments où tu t'es dit on va pas y arriver, ou on va y arriver mais ça va être difficile?
Ah bah alors moi, dans le groupe, personne n'avait vraiment d'expérience d'organisation de ce genre d'événement. Il y a eu à quelques réunions une ou deux personnes qui avaient déjà participé, mais qui n'avaient pas été dans l'organisation. Donc, pour tout le monde, je crois qu'on est un peu parti de zéro. Et c'est pour ça qu'aussi, c'est assez content d'avoir un convoi qui ne soit pas non plus 150 personnes, qui soit à taille humaine. Je pense que tout le monde a eu des doutes à un moment, moi aussi, hein, j'ai eu des doutes. Des fois, on se dit, tel point, c'est quand même très compliqué à gérer, comment on va gérer ça? Est-ce que c'est bien géré? Est-ce que ça n'est pas une quantité de travail énorme? Et petit à petit, au fur et à mesure des réunions, des discussions, on se rend compte que ben, en fait, ça va le faire, quoi. Ça va passer, on aura peut-être des petits couacs, mais c'est normal, c'est comme ça. Mais en fait, tout le monde est investi, tout le monde est déterminé à ce que ça se passe bien. Et on, voilà, tout le monde participe et donc on a une énergie qui fait que ça va bien se passer. Et bah, c'est ce qu'on voit là, on arrive demain et on n'a eu aucun problème, on n'a vraiment eu aucun problème.
Alors, on n'a pas eu de problème, mais parce que vous avez eu un beau travail. Et comment vous avez réussi à trouver ces hôtes, ces gens de la Confédération Paysanne qui nous ont accueillis, qui nous ont aidés, qui nous ont nourris, qui nous ont logés?
Alors bon, ça c'est vraiment le Y qui s'est occupé de ça. C'est un des premiers trucs qu'on a fait d'ailleurs, hein, pour fixer le parcours et l'itinéraire. On a commencé par chercher des personnes chez qui loger. Alors comment il a fait ça? De ce que je me rappelle, il a tout simplement contacté. On a contacté les mairies des villes potentiellement étapes dans un premier temps, pour essayer de voir est-ce qu'ils connaissaient pas des gens qui avaient un champ, etc. On avait aussi regardé éventuellement un camping ou deux, se dire bon, pourquoi pas avoir un camping avec une douche à un moment. Bon, finalement ça s'est pas fait. Et sur toutes les personnes de la Confédération Paysanne, en fait, on a fini par contacter la Confédération Paysanne, leur expliquer notre projet, notre convoi. Et de discussion en discussion, on nous a dit « Ah, non, mais moi, je peux pas. Par contre, je connais telle personne qui habite à tel endroit. Lui, il sera peut-être. » Donc, on l'a contacté. Il nous a dit « Ah, ben moi, j'ai un jardin, mais que pour 20 personnes. Par contre, je connais quelqu'un. » Et voilà. Et de réseau en réseau, on est arrivé... En fait, on a fini par trouver une personne qui nous a dispatché partout, sur tout le parcours.
Et alors toi, à ton endroit, à un moment donné, parce que je t'ai vu en réunion, et tu as fait tout un travail pour savoir où est-ce qu'on pouvait acheter à manger, comment tu t'es débrouillé?
Ouais, voilà. Alors moi, j'ai pris ce rôle de la logistique alimentaire. Personne ne m'a dit « occupe-toi de ça », c'est moi qui me suis mis là-dedans petit à petit. Alors, donc j'avais un travail entre guillemets en deux temps. Un premier temps, c'était on a décidé d'être en autonomie sur les repas, c'est-à-dire que tout le monde gère son repas. Alors évidemment, on partage, on est dans le partage, mais on prévoit pas une cantine qui se déplace avec nous et qui ferait à manger pour tout le monde. Donc il fallait trouver sur le parcours des endroits pour se ravitailler avec. La problématique, on passait pas toujours par des endroits très peuplés ou des grandes villes, ou même des petites villes, qui avaient un jour férié sur la route, etc. Donc on a fait une petite cartographie des villes intéressantes, parce qu'elles avaient des supermarchés, des biocoop, des pharmacies, même des décathlons, des fois, au cas où, on sait jamais. Donc ça, c'était le premier point, et on a fini par faire une petite liste pour chaque jour des points qui étaient des endroits qui étaient intéressants par lesquels passer. Et donc le deuxième point après, ça a été de prendre contact, parce qu'on a eu la chance sur ce convoi de rencontrer des agriculteurs et agricultrices qui ont une production évidemment, et qui étaient très contents et contentes à l'idée de nous partager leurs produits, de nous vendre leurs produits, ou même de demander à leurs amis, de dire « Ah ben voilà, j'ai le convoi de l'eau qui passe, ils sont à la recherche de légumes ». Est-ce que c'est possible que je leur donne ton contact? Et en fait, comme ça, on a fini par avoir des commandes. En fait, on a pu passer des commandes de pain, de légumes. Et puis ce soir, on a ce super repas. Donc ça a été aussi un petit travail de logistique. Moi, de mon côté, j'ai été en contact avec les personnes qui nous vendaient des produits pour préparer ces commandes.
Alors, Paprika, tu fais partie de l'organisation et du convoi de l'eau qui va jusqu'à Mel pour des journées... pour le village de l'eau, pour des journées d'action du 17 au 20 juillet. Qu'est-ce que ça t'a fait ?
Du 16 au 21.
Du 16 au 21, voilà. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi ?
Moi, c'était... Alors, c'est ma première vraie expérience... Enfin, vraie, non, c'est ma première grosse expérience militante. J'ai déjà fait d'autres mobilisations, mais j'y suis allé sur une journée et j'ai fait que participer. Et d'ailleurs, je dois quand même saluer là-dessus. Alors, autre manifestation que j'ai faite, c'était celle contre la 69 en octobre dernier, et qui avait une organisation incroyable. Et arrivé sur place, En fait, tous les doutes, toutes les incertitudes qu'on a quand on ne connaît pas du tout le milieu s'estompent tout de suite parce qu'on se dit, mais ces gens, c'était tellement bien organisé, on se sentait vraiment super bien. Et donc moi, en faisant cette organisation-là, j'avais envie un peu de retrouver ce sentiment-là, d'avoir quelque chose de vraiment, vraiment propre, vraiment carré, où tout le monde puisse avancer et qu'on n'ait pas à se préoccuper de petits détails, de petits problèmes, qu'on puisse juste se concentrer sur ce qui était important, c'est-à-dire l'aspect militant et aussi l'aspect groupe. Et bah moi, c'est vraiment ça que je ressens là, au bout de 4 jours de vélo, on arrive presque à la fin. Et en fait, se dire qu'on n'a jamais eu de problème, bon, à part cette histoire de gendarmes qui nous suivent tout le temps, mais ça, on n'y peut rien. On n'a jamais eu de problème d'organisation, et donc j'ai pu juste profiter, faire du vélo, découvrir plein de gens. C'est surtout ça qui est le plus incroyable. Enfin, découvrir de gens de tous âges, de presque tous les horizons, des gens que j'aurais jamais croisés avant, ou alors peut-être que j'aurais croisé, mais jamais parlé. Et franchement, c'est une super aventure. Vraiment, sur le plan humain, là, ça se termine demain, et j'ai pas envie que ça se termine, quoi.
Ça donne envie de faire plus ?
Ah oui, évidemment. Ça, c'est sûr, ça donne envie de faire plus. Ça donne envie de s'investir. Alors, moi, j'aime beaucoup aussi, je suis assez intéressé par organiser des choses de manière générale. Donc, ça donne envie peut-être de se mettre dans l'organisation de trucs un peu plus grands. Pourquoi pas, par exemple, dans l'organisation du village de l'eau, tu vois, ce genre de trucs qui sont déjà beaucoup plus conséquents. Mais en tout cas, de refaire ce genre d'événement, évidemment, organiser ou ne serait-ce qu'y participer, c'est vraiment quelque chose de fou, quoi.
Merci Paprika.
Eh bien, avec plaisir.
Mais tu peux nous rappeler ce qui s'est passé ce matin ?
Ben en fait, ce matin, j'avais visite, j'étais en train de passer la tondeuse dans mon jardin. Et j'ai vu deux véhicules qui, c'est en pleine campagne, aspect un peu paysage ouvert, deux véhicules qui remontaient sur une petite route communale, et puis ils m'ont aperçu dans le jardin, ils ont fait demi-tour, ils sont rentrés dans le champ, ils sont venus à ma hauteur, et ils m'ont demandé si j'étais bien monsieur Corredoga. Et j'ai dit que oui, en fait, il y avait un véhicule avec un compresseur derrière, et puis un autre véhicule bleu, j'ai cru que c'était les techniciens d'EDF qui venaient pour entretenir un poteau qui est à côté. Donc je ne me suis pas trop méfié. Et en fait, ils venaient me menacer pour me dire que j'accueillais un convoi, j'accueillais des gens de BNM, et que s'il y avait par hasard des malversations qui étaient faites sur les fermes dans la nuit, ils viendraient me faire payer. Donc menace directe, ils n'ont pas voulu me dire qui ils étaient.
C'est vraiment de l'intimidation pure et dure.
L'intimidation pure, et puis ça répond à visiblement un appel qui a été fait par la coordination rurale de dire que les gendarmes font pas leur travail et qu'eux allaient le faire à leur place. Quoi.
Mais c'est pas juste un acte isolé, c'est un appel des chambres agricoles, enfin des syndicats.
D'un syndicat au moins, faut pas faire d'amalgame. Ouais. La coordination rurale, et puis après ils sont cartés, enfin. Ils se croient au paradis, là, avec les résultats des élections. Ils n'ont plus de limites. Hein. Mais là, ils avaient préparé. Ils savaient qui j'étais. Ils savaient où me trouver. Ils ont dit qu'ils avaient vu mon nom sur la boîte aux lettres. Il n'y a pas mon nom sur la boîte aux lettres. Donc, voilà. Ils s'étaient préparés. Visiblement préparés.
Et ils savaient qu'on arrivait ce soir avec le convoi.
Ouais, mais ils ne savaient pas où. Donc, j'aurais dit que ce n'était pas chez moi, mais je n'aurais pas dû c'était. Mais bon, non, ce qui est l'intimidation qui est incroyable. Et puis... J'ai fait une plainte à la gendarmerie, parce que je ne veux pas laisser ça sans suite, par principe.
Et comment tu as été reçu à la gendarmerie ?
Bah, dans un premier temps, c'était un peu... c'est que des menaces, il n'y a pas de quoi faire une plainte. J'ai dit, écoutez, peut-être pas une plainte, mais au moins une main courante. Ils n'ont pas très envie, quoi. Et puis j'ai quand même insisté, j'ai dit que s'il fallait voir le procureur, j'irais voir le procureur, si vous voulez pas m'écouter. Du coup, cet entretien-là, ça a pas été. Progressivement, ça s'est amélioré. Et après, il y a d'autres gendarmes qui sont venus chez moi une demi-heure après, à peu près. Et là, c'était beaucoup plus précis. Des gens qui ont fait leur boulot, qui ont fait bien leur boulot. C'est plutôt presque agréable. J'ai honte de le dire.
Ouais. Et sur la plaque d'immatriculation, tu as pu la noter ?
Oui, j'ai noté la plaque d'immatriculation, mais c'est une fausse.
D'accord.
Puisque ça correspond à une immatriculation de moto, ils n'étaient pas en moto.
Et donc ça, on voit bien que du coup c'est très organisé parce que même ça est prévu en avance.
Exactement, c'est ça qui me fait c'est ce que j'ai dit aux gendarmes. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'ils aient pris le temps de camoufler leur plaque d'immatriculation pour venir chez moi. Mmh. Et puis après, moi, dans l'émotion, il y avait un deuxième véhicule, je portais relever sa plaque.
Ça aurait été peut-être le même résultat.
Peut-être, mais si ça avait été le même résultat, c'était flagrant. Parce que là, on reste sur le doute.
D'accord, ouais.
C'est moi qui